Bonjour à tous, nous sommes de retour avec un nouvel épisode de Checkpoint, le podcast où des passionnés partagent leur expertise pour élargir vos horizons sur les différents sujets qu'ils traiteront, un mercredi sur deux à 10h. Et aujourd'hui, on accueille Nathalie. Nathalie, comment ça va?
Salut Lucas, ça va bien. Et toi?
Bah moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on est dans ton atelier.
Oui.
Voilà, donc bon, les gens le verront pas parce que bah, c'est un format audio, évidemment. Mais je ferai peut-être une story sur Instagram pour montrer bah, ton atelier. Est-ce que ça te fait plaisir d'enregistrer ici plutôt qu'à un endroit, on va dire, plus classique?
Alors, c'est un endroit que j'aime beaucoup. En fait, ici, c'était une ancienne boulangerie. Et là, actuellement, ben, on se trouve là où il y avait le pétrin. Bah voilà, donc c'est un ancien four à pain, donc le boulanger travaillait sa pâte et moi je travaille aujourd'hui ma pâte en tant que potière et c'est une pièce que l'on a retapée il y a maintenant 4 ans et j'y ai mis vraiment mon identité et je m'y sens bien et mes élèves se sentent bien aussi, donc voilà, ouais, je suis très contente d'être ici.
En plus, là, t'as soulevé déjà un point important, tes élèves, on va en parler un peu plus en détail après. Mais ouais, bah, ça se sent, bah, c'est vraiment hyper chaleureux comme endroit et tout. Moi, c'est la première fois que je viens, on va dire, pour plus de 5 minutes ici. Voilà, donc ça me fait plaisir aussi. Et donc, on peut commencer par une petite question d'introduction, on va dire. Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier et est-ce que tu trouves ça intéressant d'en parler ici? La réponse est oui, mais pourquoi?
En fait, j'aime créer. Et la terre te permet de faire énormément de choses. La seule difficulté, c'est d'avoir de l'imagination. À partir du moment où tu as de l'imagination, la terre, elle te permet vraiment de faire beaucoup de choses. Elle te permet en fait de modeler, soit pour le plaisir, soit pour te faire des pièces décoratives, des pièces alimentaires. Donc en fait, tu peux avoir dans tes placards des pièces que tu vas utiliser pour voilà boire un café pour pouvoir cuisiner. J'ai une élève qui est passionnée par la pâtisserie et qui se fait beaucoup de plats. Donc en fait, ce métier, ça te permet de te recentrer, d'être concentré sur ce que tu fais, mais en même temps de lâcher prise. Voilà, c'est pas une question très facile en fait à répondre.
Ouais, c'est un peu vaste. Bah, c'est l'objectif un peu, c'est pas te piéger, mais te poser des questions un peu vastes et t'essayer d'y
Ouais.
répondre. Parce que même pour toi, peut-être, tu t'es jamais posé cette question, en vrai, peut-être à tout
Si,
petit.
en fait, je sais pas que je me suis posé la question, c'est que le jour où j'ai mis les mains dedans, ça a été comme une évidence en fait. Ça a été vraiment comme une révélation où je me suis dit, mais je veux faire ça toutes mes journées et toute ma vie. C'est une matière où on se sent bien, en fait. Il n'y a pas de difficulté autre que être concentré, d'observer la matière, de suivre les étapes. C'est une matière qui te permet vraiment de créer. Donc, c'est une matière où tu dois être vraiment très technique, mais en même temps, tu peux faire tout et n'importe quoi. Les contraintes que tu as avec cette matière, c'est la cuisson. Parce que ben, la terre, du coup, va réduire. Et donc, il faut faire attention que ce soit pas trop épais, trop fin, pour éviter que ça casse. Il va falloir que tu fasses attention qu'il n'y ait pas de bulles. Et quand tu vas décorer, faire attention aussi au décor que tu vas choisir, ce que tu vas appliquer comme émail dessus. Enfin, c'est des points techniques. Mais maintenant, tu peux vraiment t'exprimer. En fait, je pense que j'ai choisi cette matière-là parce que j'avais besoin de m'exprimer. Mais m'exprimer en toute liberté, en fait. Donc, je ne sais pas, c'est comme toi quand tu joues au basket, je pense que ça te libère. Ben, moi,
Ouais.
travailler la terre, ça me libère aussi.
Ça te libère et t'en as fait du coup ton métier. Donc
J'en ai fait mon
c'est hyper
métier.
cool justement. Et là bah on voit ce que tu disais que tes pièces te servent pour plein de choses. Donc, bah, juste derrière toi, on voit des pièces artistiques. T'as une tasse de café faite par toi-même, devant toi.
Oui, alors en fait, quand tu fais de la céramique, tu peux avoir des bonnes surprises comme des mauvaises surprises. Donc, quand tu ouvres ton four, en fait, à partir du moment où tu commences à créer et le moment où tu as terminé vraiment tous les processus, jusque vraiment au moment où tu ouvres ton four, en fait, tu peux avoir toutes les surprises bonnes ou mauvaises. Et parfois, j'ai certaines pièces qui sont fissurées, qui ne sont pas exactement telles que je voudrais qu'elles soient. Donc, je les appelle mes imparfaites. Et donc, j'en récupère beaucoup chez moi, que j'utilise soit les assiettes que je vais utiliser pour ma vaisselle au quotidien, soit les tasses à café. Donc, effectivement, là, j'ai une tasse qui, pour moi, a des imperfections, donc que j'ai récupérées et que j'utilise pour moi.
C'est très malin, c'est
Voilà.
très utile. T'en as un peu parlé, mais on va y revenir un peu. Comment t'en es arrivé à faire de la poterie comme activité principale? C'est ce qui te permet aujourd'hui de. Enfin, c'est ton métier de tous les jours. Et en fait, pourquoi c'est devenu ton métier? Comment ça s'est passé d'une passion, et même une révélation, à un métier concret qui te permet de gagner de l'argent? En étant, voilà, en
Alors,
étant
on va
transparent.
rentrer dans le domaine un peu personnel. C'est-à-dire que quand j'avais 18 ans, j'ai eu la chance d'aller à l'étranger et j'ai découvert la poterie. Et quand je suis revenue en France, j'avais donc dans l'idée de faire de la poterie mon métier. Sauf que je te parle de ça il y a un certain nombre d'années. Et c'était compliqué déjà de se dire que un métier manuel pouvait devenir vraiment ton métier. C'est-à-dire que quand je parlais de la poterie, les gens me disaient « Ah, c'est bien, mais sinon tu vas faire quoi comme vrai métier ?» Donc, c'était pas considéré comme un vrai métier, en fait, comme le cinéma, comme n'importe quoi.
Ouais, c'est de l'art, ouais.
Aujourd'hui, les mentalités évoluent, mais voilà, vivre d'une passion, peu importe la passion que tu as, c'est un vrai défi, un vrai challenge. Et donc, j'ai décidé de faire un métier plutôt alimentaire dans une grande entreprise où, voilà, j'ai pu quand même m'épanouir, découvrir plusieurs métiers dans ce milieu industriel où j'étais. Et puis, à un moment de ma vie, j'ai eu besoin de remettre du sens dans mon travail. Et voilà, les enfants grandissant, les frais étant un peu moins importants pour payer la maison, j'ai décidé, voilà, de remettre en question beaucoup de choses. Et suite à un très gros burn-out, j'ai essayé de trouver des activités qui me plaisaient, plutôt que d'être dans je dois faire ça, ou voilà, des choses qui étaient dans l'obligation. J'ai cherché des choses qui n'étaient que du plaisir. Et quand j'ai remis les mains dans la terre, ça a vraiment été une révélation où je me suis dit, en fait, je veux faire ça. Je veux me former, je veux pouvoir. Alors, vivre de ma passion, c'est compliqué parce que qu'est-ce que c'est que vivre? Quels sont tes besoins? Je pense que à 20, 25 ans, j'avais pas les mêmes besoins qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que à cet âge-là, tu penses que tu peux vivre d'amour et d'eau fraîche, alors qu'en fait, t'aimes le confort, t'as envie de pouvoir aller dans les grands magasins et te faire plaisir. Si tu vois une paire de chaussures ou autre chose, t'as envie de te l'acheter. Donc, tu te rends compte que t'as envie d'avoir un peu d'argent quand même. Et la différence, c'est qu'à aujourd'hui, mes besoins sont différents. J'ai moins de contraintes financières. Et donc, voilà, les vacances au ski, etc., c'est pas une finalité pour moi. Donc, j'ai pu aborder le métier avec moins de pression que si j'avais dû créer toute ma carrière à partir de ça. Ouais, c'est ça. C'est à partir du moment où tu es clair sur quels sont tes besoins, sur le temps que tu peux dégager aussi. C'est-à-dire que moi, tu vois, le week-end, les horaires ou les vacances, ça devient des notions, en fait. C'est plus, voilà, je vais travailler du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
T'as plus du tout d'horaire fixe,
Je peux pas avoir d'horaire fixe, en fait. C'est très compliqué parce que, peu importe le métier que tu as, mais encore plus quand t'es artisan, artiste, tu dois... être disponible beaucoup plus largement. Et la Terre, en fait, c'est une matière qui t'impose de la surveiller. Donc, si j'ai une pièce que j'ai faite, par exemple, le jeudi, il va falloir s'en occuper le samedi ou le dimanche.
Le dimanche, ouais.
Comme je donne des cours, j'ai aussi des cuissons à faire. Donc, ça va être des cuissons le soir. Ça va être des cuissons le week-end. J'ai des ateliers, donc je vais faire des ateliers le week-end. Enfin, voilà. Donc, si déjà d'emblée tu te dis non, je ne travaillerai pas le week-end. Moi, pour moi, c'est et je veux me sentir libre. En fait, être entrepreneur, c'est une autre forme de liberté
t'as
aussi.
Même pas de malgré le fait que tu donnes que t'aies des horaires bien différentes que quand tu travaillais dans l'industrie alimentaire, t'as pas en fait cette sécurité que peut avoir. C'est logique, ça va avec, mais t'as pas une sécurité demain de te dire que les poteries vont continuer de se vendre, que tu vas continuer d'aimer ce métier, même parce que c'est un métier qui te demande de l'envie et de la passion. Est-ce que t'as pas peur de ça, de te lasser peut-être de ce métier
C'est pas. En fait, ça vient pas d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu te sens un peu submergé, où tu. En fait, il faut réussir à multiplier les façons de vendre tes prestations, tes poteries, etc. Donc, dans le simple métier d'être potière ou céramiste, tu as aussi le métier de commercial parce qu'il faut. Il faut pouvoir vendre tes produits, il faut démarcher, il faut faire des expositions, il faut peut-être faire de la pédagogie et donc donner des cours. Donc, il faut aussi... en fait, ça brasse énormément de métiers. Je ne suis pas que céramiste où je travaille la terre. Et le temps où je travaille la terre pour vraiment pouvoir vendre mes créations, je dirais qu'à aujourd'hui, c'est peut-être 20% de mon temps. Parce que la plus grosse partie de mon temps, ça va être de donner des cours et ensuite gérer les pièces de mes élèves pour les cuissons, etc. Aller chercher les matériaux chez mon fournisseur. Et puis, une autre partie du temps, ça va être d'aller dans les dépôts-ventes pour laisser mes pièces ou alors faire des permanences justement dans les boutiques où j'ai mes pièces. Enfin, voilà, donc... avoir les mains dans la terre, c'est mon métier, le cœur de mon métier, mais ce n'est pas vraiment ce que je fais au quotidien. Et donc, cette lassitude, tu peux l'avoir à certains moments parce que tu es découragé à te dire « En fait, le métier pour lequel j'ai signé, ce n'est pas le métier que je fais. » Ou alors, ça va être des difficultés parce qu'il y a des moments où les cours ne se passent peut-être pas comme tu veux ou parce que tu as besoin de faire quelque chose, mais en fait, par exemple, j'ai des fours à faire, mais mes fours, je ne peux pas les faire quand j'ai des cours.
Ouais.
Parce que, en fait, les pièces, on dit qu'elles dégazent, donc ça crée des gaz toxiques dans l'atelier. Donc, il faut que je puisse m'organiser avant, après. Il y a des moments comme ça où il faut tellement d'énergie tout le temps, parce qu'il faut de l'énergie pour donner des cours, il faut de l'énergie pour faire ses productions, il faut de l'énergie pour aller sur les réseaux, se faire connaître, il faut de l'énergie pour... Enfin, il faut beaucoup d'énergie tout le temps. Donc, ça devient quelque chose de très présent en tête. Et ce n'est pas juste un loisir. Et c'est cette différence qui fait que parfois, ce n'est pas que tu n'as plus envie, mais c'est que quand tu vois tout ce que tu as à faire, parfois tu te dis, mais je vais pas y arriver en fait, je vais pas y arriver. Donc, il faut réussir à prendre du recul, décortiquer, se faire un rétro-planning pour essayer de justement pas être submergé. C'est l'année dernière où j'ai eu un moment où j'arrivais plus à aller travailler sur mon tour. Je suis restée 4 mois à ne plus tourner. Donc, en fait, mon métier, c'est soit tu modèles, donc tu travailles que avec tes mains,
okay.
ou soit tu vas sur le tour. Donc tu vois, comme Ghost, la référence dont tout le monde parle, c'est un film des années 80 où tu avais une nana qui faisait du tour. Et c'est comme ça, en fait, que ça a un peu fait connaître le métier du tourneur. Cet outil que tu utilises, il faut vraiment être avec ta terre. Si tu n'es pas concentré, tu n'y arrives pas. Et je suis restée au moins 4 mois où j'arrivais plus à tourner parce que j'avais tellement le cerveau plein de tellement de choses que j'arrivais pas à vraiment être concentrée dans ma terre. Et donc j'ai fait beaucoup de modelage, donc juste à travailler la terre, mais juste comme ça venait, tu vois. J'arrivais pas à faire de bol ou des choses comme ça. Des choses qui, dans notre métier, sont des choses courantes. Mon cerveau, il était vraiment ailleurs.
T'as eu besoin d'une pause?
J'ai eu besoin d'une pause, ouais. Et je pense que c'est important de réussir à conserver ces moments de pause pour justement ne pas vriller. Il y a, en ce moment, j'entends beaucoup de céramistes qui ont ouvert il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, qui finalement, en fait, pètent un plomb et soit décident d'arrêter, soit de prendre un métier à côté et donc de faire qu'à mi-temps. Ou même décident de prendre un métier à temps plein et de garder la céramique pour le week-end ou pour, des moments plaisir. Parce que la charge mentale devient tellement lourde que de ton loisir, métier, passion, ça devient une contrainte, une prise de tête. Tu peux plus voir la terre en peinture, quoi. C'est, il y a des moments qui sont compliqués comme ça, mais je pense que c'est dans tous les métiers.
Dans tous les métiers, métiers qui demandent ce genre de...
Ouais, mais je pense qu'à partir du moment où tu montes ta boîte, de toute façon, tu as ce passage. Et donc, c'est par vague. Donc, il y a un moment donné où tu t'en rends pas compte et ça te saute en pleine tête. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? J'adore ça et pourtant, j'ai plus envie d'en faire. Mais parce que tu es tellement à fond dans ce que tu fais que tu te rends pas compte qu'au fur et à mesure, tu te fais bouffer par certaines choses. Et le recul nécessaire pour justement continuer d'apprécier ton métier, tu ne l'as pas. Okay. Donc, je pense que pour n'importe quel métier, il faut savoir prendre un peu de recul, savoir faire, poser des limites.
Mm-hmm.
C'est important de t'imposer des limites pour ne pas te faire dévorer par ta passion, en fait.
Et est-ce que, du coup, tu essaies d'avoir des horaires un peu plus fixes qu'avant ou c'est toujours très large, j'imagine, plus large que si tu étais salarié, mais... Est-ce que tu essayes plus de limiter à certains jours, certaines heures même, où c'est très compliqué malgré le fait que tu aies besoin de faire des pauses?
J'apprends encore à aujourd'hui, tu vois, pourtant ça va être ma 4e année, mais j'apprends encore aujourd'hui à faire des pauses parce qu'il y a des moments où c'est presque paralysant parce que tu as envie de faire des choses, mais ton cerveau il part dans tous les sens. Mm-hmm. Donc c'est très important pour moi de me dire, donc le lundi matin, ça va être tranquille, on fait un bilan de la semaine passée, faire son administratif, parce que tu te fais aussi beaucoup avoir sur le temps administratif, tu as les devis à faire, tu as les factures à envoyer, tu as des mails que tu as reçus, donc il faut répondre aux mails, tu as des demandes particulières, etc. Donc voilà, tout l'administratif, il faut que tu puisses le poser pour que dans ton cerveau aussi, ça, c'est fait. Après, j'ai des cours quand même très régulièrement dans ma semaine. Donc, je sais que le lundi après-midi, le mardi soir, le mercredi après-midi, le jeudi après-midi, je sais que de telle heure à telle heure, c'est obligatoirement dans mon atelier pour être avec mes élèves. Donc, faire le tour s'il me manque des choses, si j'ai besoin d'aller chez mon fournisseur récupérer de la matière, des outils... etc. Donc, il faut savoir jalonner. Et donc, j'apprends à jalonner comme ça mon emploi du temps pour être efficace sans être débordée.
Ouais.
Tu tu vois.
C'est, mais la limite est très fine, quoi.
La limite est très fine. Et il faut savoir être organisé, chose que je ne suis pas du tout. Je ne suis pas organisée. Et en fait, au début, je ne voulais pas donner de cours parce que je ne voulais pas me sentir emprisonnée, justement, dans des horaires. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'a, on va dire, sauvée. C'est que ça m'a appris ça m'a appris la rigueur de telle heure, j'étais en cours, et que donc, ça m'a appris à me poser, en fait, mm-hmm. tu vois. Et donc, grâce à ça, j'ai pu articuler tout le reste de mon emploi du temps. Donc, aujourd'hui, ouais. je travaille, on va dire, du lundi au samedi, avec des petits moments de pause pour moi, c'est-à-dire à faire autre chose. Mais le problème, c'est le cerveau. C'est-à-dire ouais. que physiquement, je ne vais peut-être pas être dans mon atelier, mais intellectuellement,
tu penses à ton atelier,
je ouais. pense, je mange, je bois poterie, tu vois. C'est, ouais, c'est aussi entêtant qu'un chef d'entreprise lambda. Donc, ouais. Voilà. Mais l'organisation, c'est la base, la rigueur. C'est aussi la base pour pouvoir vraiment te dire, OK, là, je sais que mon emploi du temps, il est figé. Donc, comment j'articule le reste du temps pour réussir à faire ce que j'ai à faire sans pour autant avoir le cerveau qui déborde, quoi.
OK. Okay. T'as commencé un peu à y répondre là, vers la fin, quand t'as parlé d'organisation et de rigueur. Est-ce que tu pourrais me citer quelques qualités qu'il faut impérativement pour ton métier?
Alors, la première, je dirais que c'est la patience.
OK.
La patience, parce que la Terre, tu ne peux pas aller plus vite que le cycle de la Terre. Donc, il faut attendre qu'elle sèche. Si tu veux aller trop vite et que tu veux la sécher, tu risques des fissures. Si par contre, tu ne vas pas assez vite, elle risque d'être trop sèche. Donc, il faut savoir aussi observer. Et il faut avoir une rigueur sur le travail que tu vas effectuer. Il faut avoir de la méthodologie. Quand, par exemple, tu prépares que ce soit des engobes ou de l'émail, il faut vraiment que tu sois concentré sur ce que tu fais, parce que sinon, tu risques de louper des étapes. Et donc, à la finale, ça ne va pas marcher.
OK. Donc ça, pour toi, c'est les principales qualités qui...
Ouais, la patience.
La patience en numéro un.
En un, c'est la patience. Savoir gérer sa frustration aussi.
Ouais.
Parce qu'une pièce, entre le moment où tu la commences et le moment où tu la mets dans ton placard, donc moi, par exemple, quand je la mets sur mes étagères, dans mon espace de vente, il peut toujours se passer quelque chose. C'est-à-dire que quand tu façonnes, tu peux faire un mauvais mouvement ou quoi, et la pièce, bon, voilà, c'est au tout début, donc ça va.
Et imparfaite, comme tu disais.
Voilà, bah, là, c'est encore au tout départ. Donc, tu peux soit réussir à la réparer ou pas. Mais une fois que la pièce, elle est cuite, tu ne peux pas vraiment la réparer, en fait. C'est, si elle est fissurée, si tu as mal mélangé ton émail, enfin voilà. Donc, tu vas avoir cette frustration ou jusqu'à la finale. Donc, on va dire que le cycle pour une pièce, il faut compter à peu près entre 3 semaines et 1 mois. D'accord ?
Ah oui, quand même, OK. C'est pas que c'était aussi long.
C'est long parce qu'il faut avoir suffisamment de pièces pour remplir ton four.
Ouais.
Donc déjà... il faut avoir une certaine production. En fonction de la quantité de pièces que tu peux mettre dans ton four, voilà, il faut pouvoir le remplir. Et comme il y a 2 fours à faire, tant que t'es pas allé jusqu'au bout de ta deuxième cuisson, tu peux encore avoir des surprises. C'est-à-dire qu'une très belle pièce que tu as façonnée, tu as qu'une première fois, ça s'est bien passé, tu vas faire ton émail, ça se passe bien, etc., tu la mets dans ton four, et là, à la sortie du deuxième four, ta pièce, elle a pu exploser, parce que, en fait, il y avait une bulle d'air et elle s'est révélée qu'à la fin. Ton émail, tu l'as peut-être pas très bien préparé, donc ça peut avoir coulé, ça peut être trop fin, enfin, voilà. Et à la sortie de ton four, si tu as voulu aller trop vite, que tu as ouvert ton four trop tôt, ta pièce, elle subit un choc thermique. Et donc, elle peut aussi fissurer, exploser, enfin voilà. Donc, Voilà, il faut savoir se détacher aussi de tes pièces. Tu as des pièces que tu vas beaucoup aimer parce que tu as aimé les façonner, tu as aimé les émailler, tu aimes la forme. Il y a quelque chose qui s'est passé entre la pièce et toi. Et en fait, à la finale, ben, ça peut très bien se passer comme ça peut ne pas bien se passer. Donc la frustration aussi, il faut savoir la gérer. Quand tu es dans l'apprentissage du tour, par exemple, bah, tu t'imagines déjà que tu vas faire un bol, que tu vas faire un pichet, que tu vas faire une carafe, enfin, tu vois, des belles pièces.
Ouais.
Mais en fait, au départ, tu fais un cendrier. Un cendrier très épais, tu ne vas pas réussir à suivre les étapes. Enfin, et donc, c'est beaucoup de frustration, beaucoup de frustration, beaucoup de frustration.
Mais
donc,
c'est intéressant parce que ça
te
permet de...
C'est très intéressant parce
d'apprendre.
Que, voilà, il faut être dans l'apprentissage. Tant que tu es dans l'apprentissage et que tu te détaches de la pièce, tu prends du plaisir. Mais à partir du moment où tu es dans l'objectif d'avoir une pièce, dès que tu vas commencer à la façonner, tu te mets en fait une certaine pression. Et dès que ça va partir en cacahuète, ça... Voilà, si tu n'arrives pas à gérer la frustration, ça peut être très compliqué. Moi, j'ai des élèves qui ont essayé de faire des pièces et bon, ben voilà, en fait, elles ont dit non, mais en fait, c'est pas pour moi parce que ça... C'est... Comme tu ne sais que à la finale si ta pièce elle sera réussie ou pas, moi j'ai besoin de voilà, je façonne tac 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 et puis voilà, je
t'as
sais
besoin
que c'est fait.
De réponses, enfin les élèves ont besoin de réponses peut-être un peu plus
immédiate,
rapides, ouais.
Exactement. Alors que en poterie non, la céramique c'est pas ça, la céramique c'est voilà, il faut accepter toutes les étapes, il faut accepter qu'il se passe des choses, il faut accepter des choses invisibles en plus.
Ouais, des
parce
choses
que
que tu vois
tu
vraiment
peux
qu'à
pas
la fin
voilà exactement
et qui sont très bah, qui peuvent ruiner quelques semaines
ah oui
d'attente quoi. Ok,
tout
donc
à
ouais,
fait
c'est pour ça que la patience et la frustration vont bien ensemble pour le
ouais
coup.
ouais voilà donc c'est vraiment les premières qualités pour faire déjà de la travailler la terre ce sont les premières qualités et après c'est les qualités oui quand tu as ta ton entreprise oui la rigueur la discipline c'est très, très, très important.
Il faut une aisance à l'oral pour expliquer aux élèves des choses
Alors
comme
après,
ça.
c'est la pédagogie.
Ok.
Soit tu aimes enseigner, mais ça, tu le découvres que quand tu...
Enseigne.
Ouais, vraiment. Tu vois, quand j'ai démarré l'atelier, je pensais que je n'allais pas donner de cours. Tu vois, quand j'ai fait ma formation, je disais à ma prof, mais moi, jamais de la vie, je donnerai des cours. Je ne veux pas supporter, en fait. Je ne veux pas supporter, justement, les horaires. Je ne veux pas supporter d'avoir des gens chez moi, d'être à leur disposition. Oh, je ne veux pas supporter. Ça va m'énerver. Et en fait, j'ai donné mon premier cours. Et alors là, j'ai adoré. J'ai adoré transmettre. J'ai adoré leur montrer. J'ai adoré prendre sur moi, justement, pour me dire, OK, alors là, comment je vais faire pour qu'ils comprennent ce que j'essaye de leur dire. Donc, trouver les mots. Trouver les mots, trouver les explications, les gestes. Et puis, réussir aussi à comprendre l'expression corporelle des gens, en fait. Tu vois qu'il y a des gens qui se stressent. Donc, tu vois que bah, physiquement, ils changent.
Ouais.
Donc, à moi aussi de modifier ma façon de parler plus calmement, voilà, de prendre plus le temps. C'est toujours une remise en question que je trouve très enrichissante.
Ça dépend totalement de la personne que tu en
Ah
face.
oui,
Donc
ah
c'est
oui.
vraiment un métier dans le métier en fait que
Oui,
tu dois
totalement.
faire.
La pédagogie, en fait, c'est comme quand tu as des enfants. Tu peux avoir un enfant, deux enfants, trois enfants. Tu vas avoir la même... comment dire, le même message, tu vas avoir le même message, mais tu vas pas le dire de la même manière. Sur mes trois enfants, j'ai pas eu le même discours, j'ai eu le même message à la finale, mais pas le même discours. Et quand tu fais de la pédagogie, c'est exactement la même chose. En fonction de la personne que tu vas avoir en face de toi, soit d'emblée la personne comprend, parce que bah, voilà, vous êtes câblés de la même manière en termes de communication, ou soit il va falloir que tu trouves d'autres façons de faire passer le message. Tu vas avoir besoin... Il y a des personnes qui vont être juste dans l'oralité. tu as d'autres personnes qui, au contraire, vont avoir besoin de toucher, de ressentir. Donc, tu vas pas avoir la même pédagogie d'une personne à l'autre. Et ça, c'est... Ah ouais, j'ai découvert vraiment que j'aimais enseigner.
D'accord. Avec... Donc, c'était pas prévu à la base, mais
ah,
c'est
devenu. Pas du tout, non. Pas du tout.
Et maintenant, est-ce que c'est presque ton truc favori ou...
Ah ouais, ouais, ouais. Okay. Effectivement, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est presque frustrant quand j'ai des élèves qui viennent et qui se débrouillent tout seuls, en fait. Parce que, bon, je suis là, j'observe toujours parce que, voilà, il y a toujours, tu vois, un moment où je vais leur dire « Attention, regarde, là, je vois une faiblesse » ou « Tiens, regarde, ici, il faudrait que tu insistes », tu vois. Ouais. Mais c'est plus comme au début où je devais leur apprendre...
La base.
Voilà. Donc, ouais, des fois, c'est frustrant. Des fois, je leur dis, bon, bah, vous n'avez pas besoin de moi.
Donc, dommage.
Non, mais c'est très bien. Ça veut dire aussi qu'elles se sentent à l'aise, qu'elles osent.
Que ça marche, ce que tu fais.
Oui, puis qu'elles osent. En fait, le but des cours, c'est que les gens se sentent bien, mais surtout qu'ils osent la matière, qu'ils osent faire des nouvelles choses, des nouvelles formes, et qu'elles ne soient plus justement dans la peur de louper.
Ok, ça arrivera quand même. Dans
ouais,
les
mais
cas.
Mais en fait, je me rends compte qu'au fur et à mesure, elles s'en moquent quelque part. Elles ont envie de, évidemment, quand elles fabriquent quelque chose, elles ont envie que ça aille jusqu'au bout. Mais je leur ai tellement rabâché que tant que c'était pas terminé, fini, voilà, que ça pouvait quand même mal se passer. Donc du coup, c'est pas grave. Elles sont vraiment dans le moment où elles sont dans la création. Tu vois, elles ne sont pas dans l'objectif final, elles sont dans le chemin.
Dans le processus, ouais.
Ouais.
Ok.
Et c'est ça qui est chouette.
Qui te fait kiffer.
Oui,
d'accord.
Tout à fait.
Alors, la prochaine question, ce n'est pas moi qui vais la poser, mais ce n'est pas non plus les questions des gens qui m'ont répondu sur Instagram. C'est une question posée par ChatGPT. Donc, j'ai demandé à ChatGPT quelle question je pouvais te poser. C'est une question comme ça que j'ai par épisode de Checkpoint. Et la question que ChatGPT m'a donnée, c'est: quel type d'argile utilisez-vous dans votre travail et pourquoi ce choix ?
Alors, j'ai choisi de travailler le grès. Alors, au départ, c'était pas vraiment un choix, je dirais que c'était plutôt une évidence parce que j'ai été formée avec le grès.
Mmh.
Donc, quand j'avais 18 ans et que j'ai mis les mains dedans pour la première fois, c'était déjà du grès. Et quand j'ai suivi ma formation, il y a donc 5 ans, c'était également du grès. Et le grès, en fait, c'est une terre qui est classée dans les hautes températures. Donc, les cuissons, par exemple, tu peux aller de jusqu'à 1300-1320 degrés.
Ah oui, ok.
Donc, c'est
ah
énorme.
Ouais, c'est vraiment très fort.
Voilà. En fait, tu as deux types de températures. Tu as les basses températures, les hautes températures. Basses températures, ce sont les faïences. Et les faïences, elles sont cuites à 1100 degrés à peu près.
Et ça, c'est basse température.
Okay. Ça, c'est basse température. Ah. Mais en fait, c'est une terre qui ne peut pas être cuite plus haut parce que sinon, elle fond.
OK.
Mais même en étant cuite à 1100 degrés, elle reste poreuse. Donc, tu es obligé de lui mettre un émail par-dessus qui va, en fait, la rendre étanche.
D'accord.
Le grès, lui, à partir du moment où il est monté à haute température, il devient imperméable à 99%. Donc, d'accord. En fait, l'émail que tu vas mettre dessus, c'est plus pour le décorer que pour le rendre imperméable. Et donc, le grès, c'est vraiment une matière qui est très résistante, que tu peux utiliser effectivement dans ton four, tu peux le mettre au micro-ondes, tu peux le mettre au lave-vaisselle. Enfin, tu vois, c'est vraiment une matière qui est utilisée au quotidien. Tu peux le laisser dehors, ça ne va pas geler et donc ça ne va pas péter.
Okay.
Et en fait, ça te permet de travailler les émaux. Donc, les émaux, c'est comme une recette de gâteau, tu vois, où tu as la farine, les œufs, le sucre, etc., en proportions différentes. Les mailles, c'est pareil. Ce sont des matières premières que tu mélanges et qui, à la cuisson, réagissent. Et cette réaction, en fait, elle est d'autant plus incroyable quand tu montes à haute température.
Okay.
Donc, quand tu aimes travailler les émaux, donc les colorations que tu peux avoir sur les poteries, bah, tu t'éclates, en fait. Alors, moi, pour l'instant, tu vois, le monde de la poterie est tellement vaste que t'as pas suffisamment d'une vie pour voir une chose. Et l'émail, d'ailleurs, c'est vraiment un domaine particulier où tu peux y passer toute ta vie et tu vas encore découvrir des nouvelles choses. Il y a un monsieur qui s'appelle Daniel de Montmolin, qui est très connu dans le métier, qui a passé sa vie à faire des recherches sur l'émail. Aujourd'hui, il a 102 ans, je crois.
OK.
Et il a toujours pas fini.
Il continue.
Et il continue.
C'est fou.
Et ouais. Donc, en fait, l'émail, j'ai envie de chercher pour créer mes propres émaux. Mais je sais que c'est une recherche continuelle et le temps à aujourd'hui, bah c'est compliqué de trouver du temps, tu vois, pour faire des recherches. En fait, il faut que tu t'y mettes vraiment, il faut limite une semaine, deux semaines devant toi pour faire plein de recettes différentes et puis après les tester dans ton four avec les températures, etc., pour savoir comment ça réagit. Et aujourd'hui, j'ai pas ce temps-là devant moi.
Ouais.
Donc
peut-être un jour.
Peut-être un jour. Mais en tout cas, le grès, c'est vraiment une matière que j'aime beaucoup parce que tu peux faire du petit modelage, comme du gros modelage, comme de la sculpture, du tour. Tu peux faire beaucoup beaucoup de choses.
D'accord.
Après j'ai pas travaillé la faïence. Donc, je ne peux pas vraiment te donner de...
Tu vas comparer les deux.
Je ne peux pas comparer. Mais voilà, le grès me va bien et j'aime aussi beaucoup travailler la porcelaine. Mm-hmm. Mais la porcelaine, elle est... Ouh là là. Elle est très particulière parce qu'elle a ce qu'on appelle une mémoire de forme. Donc, si tu as un mouvement malheureux, ta pièce se déforme à la cuisson. Elle est très capricieuse, la porcelaine. Donc, c'est presque, je dirais pas un métier à part entière quand tu tournes la porcelaine, mais c'est encore un travail particulier. Donc, pour l'instant, le grès, pour moi, reste la terre la plus simple d'utilisation.
OK.
Et la porcelaine, de temps en temps, je m'amuse, mais j'en suis pas encore à proposer des pièces qu'en porcelaine.
Voilà, la porcelaine, la patience et la frustration doivent être encore plus grands.
Oh là, j'imagine. Oui.
Parce que la porcelaine, c'est quand même très, très fragile. Donc, ça doit être... c'est plus fragile que le grès, j'imagine.
Oui.
Donc, ça doit être vraiment très compliqué parfois de... Bah, est-ce que c'était déjà arrivé, par exemple, de sortir une œuvre du four et de la casser instantanément ou de la casser très rapidement?
Non.
Non, jamais?
Non, je touche du bois. D'accord. Mais jamais. Après, la porcelaine, c'est un matériau qui est très résistant, mais c'est parce qu'on la travaille en finesse.
D'accord.
Que c'est plus... Comment dire plus fragile. Mais après, c'est un matériau qui peut être très résistant s'il est épais.
D'accord. Okay.
Mais en fait, pourquoi on travaille la porcelaine? Pour avoir justement cette légèreté. Une pièce... en fait, la porcelaine... Si tu la mets à la lumière, tu vas au travers. Donc, tu joues avec cette transparence.
OK.
Quand tu fais des émaux, tu travailles des émaux sur de la porcelaine, tu as un éclat qui est différent du grès. Je ne dirais pas que la porcelaine, c'est presque magique, mais la porcelaine, c'est très délicat. Mais visuellement aussi, en fait. C'est l'élégance, la délicatesse, c'est un matériau très noble.
Ça renvoie quelque chose de plus grand, on va dire, que le grès. Ou différent, peut-être.
Oui.
Ouais. OK. Ensuite, j'ai une question qui... En fait, j'ai deux questions, mais je vais un peu les mélanger. La première, c'est quel type de pièce fais-tu en majorité? Mais je vais la mélanger avec la deuxième, c'est quelle est ta signature? Est-ce que, par exemple, tu as... On va dire on va prendre l'exemple classique, un bol par exemple, un bol où tu as vraiment ta signature, ton truc que tu fais dessus qui change un peu des autres potiers potières et que tu fais en majorité. Est-ce que tu as une pièce, un chef-d'œuvre en fait? Ça serait chef-d'œuvre.
Alors déjà, les pièces que je fais le plus, on va dire que c'est les pièces pour l'alimentaire. Donc, après, comme c'est un métier où bah, voilà, j'ai besoin de vendre aussi des pièces pour pouvoir en vivre, je propose quand même beaucoup de bols, de tasses, de mugs, et c'est ce que les clients achètent le plus facilement. Après, ce qui va me démarquer un peu, c'est que ben, sur mes bols, par exemple, je fais une petite encoche au niveau du pied pour que justement, quand tu laves ta pièce, l'eau puisse s'écouler facilement quand tu la mets à sécher. Voilà. Et quand je fais des bols à ramen ou des bols à pâte, j'ai une forme assez particulière avec une encoche. Et mon émail aussi est reconnaissable parce que. Alors, tu couperas.
Pas
En
de
fait,
soucis.
j'ai un émail particulier. C'est un. Je l'appelle la collection granit. Et en fait, ça donne un aspect vraiment particulier à un endroit de la pièce. Et c'est pas une. Alors, c'est pas une décoration, mais. Voilà, c'est pas quelque chose que l'on voit beaucoup. Et donc, ça sort un peu du commun. J'aime que mes pièces soient sobres. Alors, je joue sur la couleur actuellement, mais ça reste des pièces quand même très sobres, mais assez contemporaines.
Tu mélanges jamais trois, quatre couleurs, c'est une ou deux
C'est,
maximum.
voilà, deux maximum. Oui. Et les émaux qu'on va faire sur les pièces, tu vois, j'aime bien qu'elles soient quand même légères. Visuellement, j'aime bien qu'elles soient légères. J'aime pas qu'elles soient trop lourdes. Je sais pas comment expliquer le visuel, mais voilà. Quand on parle de potier ou de poterie, on imagine le truc marron.
Ouais,
Lourd,
le pot quoi, le pot.
le pot, voilà. Alors que, ouais, j'essaye d'avoir des pièces qui sont déjà légères en main. Donc, vraiment, je travaille vraiment que au tournage ou au modelage. Je fais pas de coulage, j'utilise pas de plâtre. Alors, c'est vrai que le plâtre, ça te permet d'avoir des pièces beaucoup plus fines, mais c'est un autre métier pour moi. C'est être céramiste, c'est travailler ses pièces toi-même autour ou au modelage, mais pas dans des moules en plâtre. Après, je trouve, tu vois, il y a le métier propre de céramiste. Ensuite, tu as la manufacture où là, tu vas vraiment être dans la série. Et après, tu vas avoir l'industriel. Tu as trois niveaux, on va dire, de production. J'ai envie de garder des petites productions. J'ai pas envie de me lancer dans des séries de 500 pièces.
Comme si tu faisais une collection limitée, quoi.
Voilà, c'est plutôt. Alors, je dirais pas que c'est des capsules parce que je refais les mêmes pièces, mais entre un bol que j'ai fait au mois de janvier et un bol que j'ai fait au mois de septembre. Tu vas peut-être avoir un peu de différence, tu vois, en termes de diamètre ou de hauteur. Alors, ça ne va pas se jouer à beaucoup parce que j'ai des cotes que je respecte. Mais si, par exemple, je fais des moules, tu peux être sûr que celui de janvier, février ou de décembre, tu ne verras pas la différence. Moi, je veux quand même que l'on sente que ça reste un métier, enfin, que ça reste une pièce faite à la main, tu vois. Donc j'ai un peu de mal avec d'autres façons de fonctionner. Mais voilà, ce qui me différencie des autres, c'est voilà, je reste dans des petites séries, que mon émail est un petit peu particulier et des petites touches de façonnage sur certaines de mes pièces.
Donc ouais, c'est le fait que tu n'aies pas de modèle, on va dire. Bon, t'as des cotes, comme tu l'as dit, mais t'es pas de modèle très précis. Ça permet de voir une différence déjà, ouais, entre le moment où tu l'as créé, enfin, et les différents moments où tu l'as créé, et de garder, ouais, ce côté fait main.
Artisanal, tout
C'est
à
ça.
fait.
Le fait que, bah, oui, c'est pas toujours la même taille, c'est pas toujours la même forme, parce que, bah, c'est pas un robot qui l'a fait, c'est pas quelqu'un qui travaille à la chaîne, c'est
Voilà, oui,
quelqu'un de
tout à fait.
passionné.
Alors en fait, à la base, Un potier, c'était une personne qui faisait des pots en série. D'accord. Donc, effectivement, j'ai appris à travailler en série. Donc, si je fais 50 bols d'affilée, ils vont tous être normalement avec le même galbe. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu as la pièce dans la main. Tu as la mémoire musculaire et on a la pièce dans la main, en fait. Au fur et à mesure, on fait toujours les mêmes gestes et donc, on a des pièces qui se ressemblent. Maintenant, il y a toujours une toute petite différence, tu vois. Alors, c'est pas grand-chose. Je te dis, j'ai des cotes. Par exemple, pour mes bols, je sais qu'ils doivent faire tant de diamètre, tant de hauteur avec un galbe comme ça. Et un pied qui ressemble à ça, avec telle dimension aussi. Mais ça va se jouer à quelques millièmes de millimètres. Voilà, c'est ce que j'aime, en fait. C'est ce que j'aime.
D'accord.